Nous allons lire dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Il est écrit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et au verset 13, c'est écrit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Voilà, je recommence la lecture. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et au verset 13, c'est dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ce passage qu'on vient de lire nous montre deux réalités. Le fait de croire et de confesser. Pas confesser dans le sens d'avouer ses péchés, d'avouer les mauvaises choses qu'on a faites, mais confesser dans le sens de proclamer, le fait de dire, le fait d'exprimer ce que nous croyons. Ce passage nous montre qu'il ne suffit pas seulement de croire. Et le passage nous dit que croire nous amène à la justice. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Si on ne croit pas, comment on peut être sauvé? Ceux qui croiront, et on se rappelle de Marc 16, 15 à 16, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Il y a une deuxième réalité qu'on rajoute au fait de croire, c'est de manifester qu'on croit. C'est de le manifester. Vous savez, c'est comme si on croit qu'un médicament peut nous guérir et on a ce médicament. En quelque sorte, on est déjà guéri, puisque ce médicament, c'est vrai aussi, ça guérit. Mais si on ne le prend pas, donc on restera dans une guérison certaine, mais pas encore concrète. Elle est certaine parce qu'on a le médicament, et c'est sûr que ce médicament l'a guéri. C'est comme si on a faim et qu'on a 100 000 euros. On peut dire qu'on mangera, on sera rassasié, en quelque sorte, on a déjà la solution. Mais faut-il encore aller acheter la nourriture et manger? Donc, il y a le fait de croire, c'est très bien. Ça fait qu'on a la justice de Dieu en notre faveur, mais il faut dire les choses, il faut confesser. Et nous voulons parler du fait de confesser la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Dès le départ, je viens faire une parenthèse, c'est que nous ne voulons pas parler comme ce que nous avons entendu autrefois, donner un système pour obtenir les choses qu'on veut. On nous a dit qu'il fallait répéter la parole de Dieu, confesser comme une technique. Non, je suis pas en train de parler d'une technique, je suis en train de parler d'une réalité de la parole de Dieu. On a vu beaucoup de gens dans leur péché, dans leur mauvais comportement. Et parfois, ils n'étaient pas dans le péché, mais ils, dans leur plan personnel, ils ont appliqué les principes spirituels pour leur projet personnel. Nous ne sommes pas en train de parler de ça. Nous sommes en train de parler de la construction. Quiconque construit l'œuvre de Dieu, quiconque construit le projet de Dieu, on est en train de lui donner un paramètre très important, une stratégie que Dieu nous a donnée, un fonctionnement spirituel que Dieu nous a donné pour construire son projet dans nos vies. Construire la mission qu'il nous a confiée aussi. Il nous a demandé le confesser. Il nous dit, comme on a lu dans Romains 10, qu'est-ce qui est dit donc au verset 9 qu'on a lu, on a lu au verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc quand on croit du cœur, on a la solution, c'est réglé. Mais on ne vit pas encore cette solution. Et vivre cette solution, c'est le salut. C'est ça la réalité. On a le ticket, mais on n'est pas encore entré dans l'avion. Et comment on entre dans cette solution, on vit cela, on expérimente, c'est en confessant de la bouche. Et quand on dit confesser de la bouche, il ne s'agit pas forcément de la bouche physique, on peut parler aussi en esprit, parler, dire les choses. C'est en confessant de la bouche. Il ne suffit pas de croire. Il faut dire les choses. Et nous voulons dire une fois de plus que nous ne sommes pas en train de parler de la technique des années 90, début 2000, qu'on a entendu à gauche, à droite. Il dit que tu fixes un verset biblique, tu commences à le répéter, tu commences à le confesser, tu verras à le proclamer tout le temps, tu verras ça s'accomplir. On ne parle pas d'une technique. Jésus a dit, quand vous priez, qu'est-ce qu'il a dit? Ne multipliez pas les paroles comme si c'est par la multiplication des paroles que vous serez exaucés. Nous ne sommes pas en train de parler de cette technique-là qui consiste à dire la même chose, confesser. Cette parole dit la proclamer. Croire que par la multiplication de la proclamation, que c'est là que Dieu va agir. Non, nous sommes en train de dire tout simplement, tu confesses cela par la foi. Tu confesses cela parce que tu sais que Dieu est tout puissant et qu'il peut accomplir ce qu'il a annoncé. Voilà. Pas comme une technique, mais comme un fonctionnement que Dieu nous a donné dans sa parole. C'est ton sérieux et le fait que nous soyons, pardon, le fait que nous soyons dans le projet de Dieu, c'est ça qui va compter. Parce que tu vas confesser des choses, tu vas proclamer des choses, mais selon ta logique à toi, selon la logique humaine, ce n'est pas suffisant. Ça va amener où? Oui, tu peux te marier, tu peux avoir un très bon boulot parce que tu l'as proclamé, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, vous serez le premier et non les derniers. Mais tout ça amènera où s'il n'y a pas Dieu au centre? C'est pourquoi nous voulons d'abord dire à chacun de mettre Dieu au centre. Dieu doit être au centre. Quand la maman de Samuel cherchait à enfanter, elle priait pourtant, ça ne venait pas. Certainement, elle avait confessé la parole. Mais Seigneur, tu as dit que dans ta maison, une femme est une vigne féconde. Elle a confessé certainement la parole. Mais elle est restée stérile. Mais quand elle a mis Dieu au centre, elle a dit, Seigneur, quand tu vas me donner cet enfant, je te le donnerai, il sera à ton service. Je te mets au centre de ma prière. Quelques temps après, elle était enceinte. Nous devons mettre Dieu au centre de nos projets. Je ne dis pas que si on ne le met pas au centre, ça ne va pas s'accomplir. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis qu'un humain. Dieu peut exaucer les prières même quand on ne le met pas au centre. Ça, c'est sa souveraineté. Mais moi, je suis en train de donner le fonctionnement que lui-même nous donne et qui nous donne avec assurance la victoire. Nous sommes en train de prêcher une victoire totale. Et ça commence par mettre Dieu au centre. Parce que même si il exauce beaucoup de gens à un certain niveau et sans qu'on le mette au centre, Mais tout ça est vanité. Ça va se consumer et tu vas te retrouver à la case départ. Mais quand quelqu'un a mis Dieu au centre, quand il est exaucé, c'est Dieu lui-même qui porte son exaucement. Il se charge de cet exaucement jusqu'au bout. Il protège cet exaucement parce que c'est lui, c'est pour lui qu'il y a exaucement. Ce n'est pas pour toi. Quand c'est pour toi, c'est comme vous avez la manne. Les gens qui voulaient garder la manne chez eux, le lendemain, c'était pourri. D'accord, tu es exaucé, tu as pris, tu as confessé la parole. Dieu t'a donné le travail, il t'a donné l'argent que tu voulais, il t'a donné les enfants que tu voulais. Mais puisque tu n'as pas mis Dieu au centre, tout ça va pourrir. Tout ça va pourrir. Mais quand on a mis Dieu au centre, il construit la chose. C'est très important. D'abord, Dieu au centre. Quel est ton projet pour moi, Dieu? Nous avons des projets particuliers, chacun. Hein? Dieu peut te dire d'aller en Chine, le servir. Ça, c'est particulier à chacun. Mais nous avons aussi des projets que nous tous nous connaissons. C'est les mêmes pour nous. Le projet, c'est quoi? C'est que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est un projet. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est un projet. Il y a d'autres projets. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le projet de Dieu. Jean 14, 12 à 14. Ceux qui croient en moi feront de grandes, les mêmes choses que je fais. Ils en feront de plus grandes. C'est le projet du Seigneur. Psaume 68, 29. Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout cela, ce sont les projets du Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est le projet suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On a deux projets suprêmes. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'autre projet, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. C'est les deux projets suprêmes. Sachant que pour tout cela, sachant que tout cela peut s'accomplir par la foi, en croyant. Voilà. Il y a deux projets principaux. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allez, fais de toutes les nations des disciples. Ces deux projets principaux, je dis bien qu'il y a d'autres, plein d'autres projets hein, à côté. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est un projet. Par les maîtres sûrs de Jésus, nous sommes guéris. Voilà, il y a plein d'autres projets, mais j'ai donné les deux principaux parce que à quoi ça sert d'avoir les secondaires et n'avoir pas le principal. Les deux principaux, c'est ceux-là. Allez faire de toutes les nations des disciples en deuxième position. Première position, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ces deux projets, comment les concrétiser? C'est en croyant. Tout s'obtient par la foi. Maintenant, notre enseignement de ce matin, c'est quoi? Il ne suffit pas de croire vaguement dans son cœur. Il faut le dire. Et le fait de dire, c'est un élan qu'on prend. C'est une décision, un engagement d'y arriver. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit, à moins que ce soit un aventurier, à moins que ce soit quelqu'un de léger, quand quelqu'un dit, on sent que la personne veut vivre cela. Alors que quand quelqu'un garde que les choses dans son cœur, on ne sait pas quelles sont ses vraies intentions. Juste la connaissance comme ça, ou bien il veut vraiment vivre ça. Oui, tu es parti à la pharmacie, tu as acheté le médicament. Mais tant que tu ne l'utilises pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il veut vraiment guérir? Il compte guérir dans un mois? Non, non. On ne sait pas. Mais dès qu'on te prend, on te voit prendre le médicament, on se dit, la personne est engagée dans le travail pour sa guérison. Quand on confesse de la bouche, c'est l'élan nécessaire afin de vivre, d'expérimenter les projets de Dieu. Quand on confesse la parole, quand on la dit, et comme je l'ai dit, ça peut être la dire en esprit, en priant Dieu, puisqu'on peut prier mentalement, on peut parler à Dieu sans ouvrir la bouche, mais pour Dieu, c'est parler quand même. On doit dire, maintenant, quand il y a certaines choses qui nécessitent que les autres entendent, comme le baptême, on doit le dire clairement quand on se convertit. Mais moi, je parle pour tout. Il y a des cas où on doit ouvrir vraiment la bouche et parler, mais il y a des cas où on peut parler à Dieu lui-même parce que Dieu, lui, il entend même quand le cœur parle. Mais quand il s'agit de certaines choses, il faut parler à soi-même dans la prière en ouvrant la bouche ou parler aux autres en ouvrant la bouche. Parler plutôt avec les autres, mais on parle toujours à Dieu en ouvrant la bouche. Parce que les autres doivent aussi entendre. Mais je veux dire qu'il y a une étape, il y a deux étapes. La foi, c'est très bien. Croire, c'est très bien. Mais il faut parler. Il faut prendre l'élan. Il faut aller pour vivre les choses. Et ça commence par le parler. C'est très, très important. Nous lisons donc Marc 9, 14 à 27. Marc 9, 14 à 27. Marc 9, 14 à 27. Vous savez, quand on dit les choses, quand on prie pour les choses, c'est la preuve aussi qu'on a cru. Quand on dit les choses, quand on parle de ça, c'est la preuve aussi qu'on veut les vivre. On en parle parce qu'on veut vivre. On demande parce qu'on veut vivre. Et Dieu veut qu'on manifeste cela. Vous savez, Adam n'a rien demandé. Il a tout trouvé. Quelle a été la conséquence? La rébellion. Dieu veut que nous demandions, afin que nous soyons associés à son projet, afin qu'on ne dise pas, il m'a mis dans son projet sans me demander. Vous savez combien de fois les enfants d'Israël se sont plaints dans le désert pour dire, Moïse, pourquoi tu nous y as amenés? Pourtant, ils étaient volontaires pour quitter l'Égypte. Ils étaient volontaires. Et quand Dieu a envoyé Moïse, il a dit, tu dis à Pharaon que je veux que mon peuple aille m'adorer dans le désert. Tous, ils étaient témoins de ce que était l'objet de la mission de Moïse. Moïse en avait parlé aux anciens d'Israël. Ils étaient conscients que Dieu les amenait après la sortie de l'Égypte au désert. Mais ils se sont plaints quand même. Donc vous comprenez pourquoi Dieu tient à ce que nous-mêmes nous disions ce que nous voulons. Parce que nous avons une nature de traîtres. Et donc si Dieu nous place dans quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes désiré, on finira par s'en plaindre. Alors il veut nous associer, il veut qu'on dise, qu'on confesse de la bouche ce qu'on veut. Et en même temps dans cette confession, il nous a donné une force extraordinaire pour vaincre, avoir une victoire totale. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc par la confession, il nous donne une arme absolue. Une arme absolue, c'est-à-dire ça peut vaincre les forces des ténèbres, ça peut construire, ça fait construire des choses, ça peut nous faire avancer parce que nous avons toute la parole devant nous, on a la Bible. Et avec cette Bible, en confessant, nous ouvrons la porte du salut, c'est-à-dire la porte de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Et je peux vous dire, on va les vivre. Quiconque croit, quiconque confesse, quiconque dit les choses telles que Dieu les a données, finit par vivre cela. Marc 9, 14, il est écrit ceci. Jésus voyant cela, non plutôt 9, oui. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris. Et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Dire par la bouche, sors de cet enfant, esprit démoniaque. Vous croyez qu'en restant là, en disant, on croit que Dieu peut les libérer. On croit que Dieu peut les libérer. Tu dis ça dans ton cœur, c'est tout, non? Il faut dire, confesser de la bouche. Mais nous avons pris cet exemple-là. Parce que vous savez, il y a deux formes de foi. Il y a la foi principale, la foi racine que Dieu a mise dans tous les humains. C'est-à-dire une base commune à tous qui nous fait dire que Dieu existe. Qui nous fait dire que Dieu est tout puissant. Mais c'est une racine. Vous savez, les racines sont cachées. On ne les voit pas. C'est la foi racine. Tous les humains ont ça. Vous savez, c'est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et c'est un don de Dieu. Donc même cette foi-là est un don de Dieu. Et Hébreux 12, qu'on va lire tout à l'heure, nous dit aussi que c'est Jésus-Christ qui produit la foi. C'est une foi racine qu'on a mis à tous les humains. Et qui grandit en fonction de notre pratique. Plus on croit et qu'on marche dans l'élan de la foi, cette foi grandit. Mais il y a cette base-là qui est en tous. Que Dieu existe, qu'il est tout-puissant. Il y a la foi qu'on peut dire provenant de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire tu reçois une parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit qui lui-même, qui elle-même, cette puissance-là, te pousse à l'action. On peut voir cette fois-là chez qui? Quand Pierre a dit à l'homme qui était infirme, qui lui demandait de l'argent, Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais j'ai quelque chose en moi. Et ce que j'ai me pousse à te dire, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Donc c'est une foi qui vient avec la puissance du Saint-Esprit. Je me souviens quand ma mère est morte. Il y avait la douleur de la séparation physique définitive, mais il y avait aussi la douleur de où est-ce qu'elle est là-bas au ciel. Et la deuxième était plus forte. Où est-ce qu'elle est plutôt, au ciel ou en enfer? Et le soir, j'ai entendu une voix qui m'a dit, elle est morte le mardi, elle est mercredi, enfin j'ai oublié, soit elle est morte le lundi, mais deux jours avant que j'en finisse avec tout ça, j'ai entendu une voix qui m'a dit, fais confiance à ma justice. Et le jeudi, tu fais les beignets, tu invites les gens et tu arrêtes tout. Voilà, je crois que j'étais peut-être le mardi, la voix m'a dit, fais confiance à ma justice. La voix ne m'a même pas dit où est-ce qu'elle est. Fais confiance à ma justice. Alors, ça, c'est ce que j'appelle la foi qui vient avec la puissance du Saint-Esprit, avec le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient en puissance en toi et qui règle tout. Au fait, tu n'as même pas le temps d'examiner, de polémiquer, à moins que tu sois têtu, tu peux toujours résister. Mais cette foi contient tout. Elle contient la parole, elle contient en même temps la capacité à la mettre directement en pratique. On te donne tout. Donc sans effort, tu as tout. Tu n'as pas ta part vraiment dedans. La seule part que tu peux avoir, c'est de contredire par orgueil ou par tétitesse. Mais sinon, tout est donné. Je peux vous dire que, en ce moment-là, quand j'ai entendu cette voix, on aurait pu me dire qu'elle était en enfer, j'allais être toujours bien. Au fait, cette voix-là m'a donné une satisfaction de sur la justice de Dieu. Où que soit ma mère, Dieu a été juste. C'est ce que j'appelle la foi, don du Saint-Esprit, par le cadeau du Saint-Esprit. Cette foi-là vient avec donc, la parole en même temps avec la puissance pour exécuter. C'est ce qui fait que Pierre ressent ça et dit, je n'ai pas d'argent à te donner, mais il y a un truc qui me dit, lève-toi et marche. Donc il exécute. Donc, on ne nous demande pas, c'est pourquoi nous, je me souviens que on a fait les apprentis magiciens autrefois, on a voulu, quand j'ai dit on, c'est pas forcément moi, mais dans les milieux chrétiens, je me souviens même d'une réunion quand on était très jeune au Maroc, où on a voulu, il y a un frère qui a dit, mais Dieu a dit ça dans sa parole, que en son nom, nous ferons lever les paralytiques, ainsi de suite. Bon, on avait une sœur là, au Maroc, qui avait des appareils orthopédiques sur ses jambes. Dit, voilà la frère, la sœur, elle est là depuis longtemps avec nous. Personne ne réagit. Allez, moi je t'ordonne. Lève-toi et marche. Il a beau crier, rien ne s'est passé. Parce que il n'avait pas reçu cette foi-là, parole et don en même temps. C'est-à-dire que la parole, on l'a. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. Mais il n'y avait pas la puissance qui accompagne pour directement guérir la personne. La foi racine ne veut pas dire qu'on doit commencer à tout régler. Non, il y a la foi qui doit venir par le don du Saint-Esprit qui règle tout en même temps. Mais moi, je vais insister sur la foi racine. Puisque celle qui vient avec le don du Saint-Esprit, ça ne dépend pas de nous les enseignants de la parole. C'est le cadeau de Dieu, ça vient et la personne exécute. Facilement parce que tout lui est donné. Et la parole, et la force, et la facilité à croire. En fait, on te donne tout en même temps. La facilité à croire, la parole et la puissance. Tout vient en même temps. Mais la foi racine, dans la foi racine, on te demande d'être d'accord et de faire un pas par la confession de la bouche pour dire ça va se faire. Pas forcément tout de suite. Ça, c'est ce que j'appelle la foi don. Mais ça peut être tout de suite lorsque c'est nécessaire, tout de suite. Mais lorsque ce n'est pas nécessaire tout de suite, on peut toujours affirmer par la bouche que ça va se faire. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est vrai. C'est ça notre prédication d'aujourd'hui. Nous ne venons pas au secours des gens qui reçoivent la foi don puissant du Saint-Esprit. Parce que quand ils reçoivent ça, ils exécutent directement, ça se fait. Tout se fait. Nous venons au secours de nous tous, moi le premier, qui avons une foi racine. En nous, il y a quelque chose qui nous dit que Dieu peut tout. En nous, c'est fixé que Jésus est mort à la croix par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En nous, nous avons un certain nombre de choses, socles, racines qui sont là. mais nous pouvons être écrasés, je le dis bien écrasés, par la puissance du visible. Écrasés par la puissance du passé. Cet homme dont le fils était possédé, sourd-muet, était écrasé par la puissance du nombre d'années de non-guérison. Nombre d'années de non-guérison. Ça l'écrase. Ça fait longtemps qu'on prie pour ça. Ça fait longtemps qu'on prie. Et rien ne se passe. Du coup, cette force-là, il n'y a pas que le temps. Il y a le temps. Il y a le visible. Mais il y a aussi les puissances démoniaques cachées qui peuvent manger en quelque sorte notre foi, racine, et nous pousser à l'immobilisme. On n'arrive même plus soit à croire, soit à avancer. Parce que pendant tant d'années, parce que le visible est tellement contraire à ce qu'on croit. Leur but, c'est quoi? C'est que tu ne dises rien. Tais-toi, tu ne vois pas que c'est déjà perdu d'avance. Notre prédication aujourd'hui, c'est confesser la parole. Avec la petite foi qui te reste, dis quand même. Dis quand même. N'est-ce pas, Jésus a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. N'est-ce pas, le Seigneur a dit ça? Nous le rejoignons pour dire, la foi racine qui semble faible au vu de la visibilité, au vu de ce qui est visible, au vu des années infructueuses, c'est la plus grande richesse que tu as, cette foi racine. Il y a en toi quelque chose de faible, mais de réel, qui te dit que Dieu est tout-puissant. Alors, comment donner la puissance à ce qui est faible? C'est en disant ce que tu penses là faiblement. Dis-le. Jésus arrive. Il trouve des polémiques, des discussions. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi discutez-vous? Ah oui, mais l'homme dit, mais oui, mais mon fils, il est possédé. Tes disciples n'ont pas pu le délivrer. Jésus a dit, ah bon, ça fait combien de temps? Mais ça fait très longtemps. Donc on va lire la partie. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, vous vous rendez compte. Le père est déstabilisé par tout ce qu'il voit. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et maintenant, il explique tout ce qui lui arrive. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. Vous vous rendez compte? Quand il y a du feu, l'esprit saisit cet enfant-là pour le jeter dans le feu. Et ce père a dû vivre ça plusieurs fois. Ce n'est pas tout. Et dans l'eau, pour le faire périr. Vous vous imaginez tout ce qu'il y a eu comme travail de ce qui est visible dans le cœur de ce père. Il y a eu le dépit. La tristesse et parfois la colère contre Dieu. Comment tu peux laisser mon enfant comme ça? Parce que tu vas te fâcher contre qui? Contre qui? Contre la sage femme? Non, contre ta femme, non, mais contre Dieu. Mais comment? Et tout ça s'accumule en nombre d'années. Finalement, si tu suis ça, tu sombres dans la dépression. Mais je veux nous dire, mais
La dépression, ça va te faire gagner quoi? Rien du tout. C'est le projet du diable. Tu as tant prié pour ton église. Rien n'évolue. Ne tombe pas dans la dépression. C'est le projet du diable. Tu as prié pour ta région, pour la France. Je ne sais pas dans quel pays quelqu'un me suit là, pour la ville où tu es. Ça fait des années. Tu ne vois pas le berger que tu as demandé au Seigneur. Et au contraire, tu vois encore des choses pires. Comme un frère m'a dit, mais pasteur, nous sommes en train d'évangéliser. Mais après, c'est les mauvaises églises qui récupèrent les âmes. Je dis, mais Seigneur, on n'a rien. C'est pourquoi ces âmes-là préfèrent aller dans ces grandes salles-là avec tout, tout ce qu'il y a de beau. Et moi, je veux dire, si quelqu'un préfère la grande salle, c'est qu'il n'a pas vu Jésus. Celui qui s'est converti à Jésus, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc si vous avez évangélisé quelqu'un, finalement la personne préfère une là où c'est beau, c'est grand, et on lui dit de belles choses pour sa chair, c'est que la personne n'a pas encore reçu Jésus. Celui qui a vraiment reçu Jésus ira là où il y a Jésus. Nous revenons à notre thème. Tu as beaucoup prié pour certaines choses. Et le diable se rajoute pour te dire, est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce qu'il entend? Est-ce que c'est ce qu'il a fait à Adam et Ève? C'est toujours le « est-ce que ?» Et ça te conduit à quoi? Finalement, à la paralysie. Ou alors, à dire les choses, mais religieusement. Tu n'y crois plus. Moi, je nous demande aujourd'hui de rentrer en nous-mêmes, d'examiner soi-même, de dire, Seigneur, comme ce papa dit, je crois, mais sincèrement, je ne crois pas comme il faut. Amen. Je bénis le Seigneur pour cet exemple qu'il nous a donné. Cet homme croyait, il avait la foi racine. Il avait une racine en lui qui lui disait que Jésus peut tout faire. Mais le poids des années d'échecs, les propres disciples de Jésus ont aussi échoué. Ça vous imaginez, bon, les disciples qui ont réussi autre chose ailleurs, mais là ils ont échoué. Il a dû se dire, ah, mais ces gens-là, s'il a confié son enfant aux disciples, c'est qu'il pensait aussi que les disciples pouvaient régler. Donc il a dû voir les disciples régler d'autres problèmes. Il dit, mais comment, pour mon enfant, personne n'est réussi. Même s'il croyait que Jésus pouvait tout faire, mais il avait du mal à croire qu'il puisse régler ce problème-là particulier. Mais il avait quand même la foi racine qui lui faisait dire, Jésus est tout puissant, il peut. Alors, au lieu de se focaliser sur le problème de son fils qui lui aspirait toute sa foi, il a préféré se focaliser sur la toute-puissance de Dieu qui peut lui augmenter la foi. Il a dit Jésus. Je crois, mais c'est une petite foi. C'est trop faible pour sauver mon fils. Alors, viens au secours de ma si faible foi. Mais elle est là quand même. Amen. Bien-aimé, ça rejoint ce que Ésaïe nous dit sur le Seigneur Jésus dans Ésaïe 42, 1 à 3. Il ne brisera pas le roseau cassé. On va lire ça, Ésaïe 42, 1 à 3. Notre foi racine peut être petite, mais elle est là. Et elle peut faire des exploits. Ésaïe 42, 1 à 3. Elle peut faire des exploits, pourquoi? Par Jésus. Jésus réveille le lumignon qui cherche à s'éteindre. Il rallume ça. Nous lisons Ésaïe 42, 1 à 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. C'est pourquoi, bien aimé, il faut éviter les grandes publicités. Les choses de Dieu se font tranquillement. Voilà, nous parlons tranquillement. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. C'est les gens qui sauront qu'il y a l'odeur de sainteté quelque part. L'odeur de sainteté, ça passe dans l'atmosphère. L'odeur de la puissance de Dieu, ça passe dans l'atmosphère. Nous n'avons pas besoin de faire de grandes pubs. Il ne brisera point, c'est le verset qui nous intéresse. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Amen. Une mèche qui brûle encore. Vous savez, les lampes anciennes, c'était des lampes à huile. Et quand l'huile finissait, la mèche, la lumière aussi commence à s'éteindre. Mais il y a encore un truc rougeâtre. C'est le lumignon. La mèche qui... Ça brûle encore, mais il n'y a plus la flamme, mais il y a encore le rouge là. Il suffit qu'on mette de l'huile, la flamme revient à nouveau. C'est ça la foi racine. Cette mèche qui brûle encore. Quelque chose en toi de fondamental que Dieu a placé dans les humains. De fondamental parce que Dieu aime les humains. Parce que Dieu veut les sauver tous. Il a placé dans tous les humains cette chose-là fondamentale, le lumignon, qui brûle encore. Il a placé ça. Pour que par son esprit, il vienne raviver le temps venu. Et quand il vient, il faut qu'il trouve ça. Bien-aimé, que Satan ne te vole pas le lumignon là que tu as encore. Jésus peut ranimer ça. Ce lumignon peut être étouffé par ce qu'on voit, ce qu'on a vécu. Tant d'échecs, tant de mauvaises choses. Que tu as du mal à croire que Dieu soit capable de faire tout ce qu'il a dit. Alors, aujourd'hui, ne te focalise pas sur tout ça, sur ce que tu as vécu. Focalise-toi sur la foi racine que Dieu a posée en toi. Je ne te demande pas de regarder ni à ce que tu as vécu dans le passé, ni à ce que tu vis autour de toi. Je te demande de regarder dans ton cœur et dans le souvenir ou dans la lecture de la parole, dans le souvenir de ta parole, de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a posé dans ton cœur? Tu sauras que non, Dieu existe. Tu fais un travail personnel. Tu dis stop. Je fais un travail en moi-même. Est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que il est tout puissant? Est-ce qu'il a envoyé Jésus son fils? Tu fais un travail. Est-ce que Jésus est celui qu'il dit? Quelles sont les preuves que nous avons? Comment je peux croire vraiment? Tu fais un travail, tu vas te rendre compte que Dieu a complètement raison. Et à partir de là, je suis bien en train de parler de la foi racine. C'est-à-dire, tu n'auras pas toujours forcément la flamme qu'avait Pierre pour dire « Je n'ai ni argent ni or, lève-toi et marche. » Mais tu as quelque chose qui te dit que Dieu a toujours raison, il existe. Alors, Seigneur, je crois que ce que tu as promis s'accomplira. Je crois, Seigneur, que je peux aimer les hommes comme moi-même je m'aime. Je peux prier pour ceux qui m'ont persécuté, qui m'ont fait du mal. Vous savez, il y a des choses, des situations qu'on a vécues. On se dit, mais est-ce que moi je peux vraiment vivre cette parole qui dit aimer ceux qui nous persécutent, bénir ceux qui nous font du mal. Est-ce que je peux vivre ça? Quand je passe à tous les coups bas que ces gens-là m'ont fait, on se dit, ce sont des vœux pieux, comme on dit en français, ce sont des paroles utopiques. Ce n'est pas de l'utopie. C'est pourquoi il faut rentrer en soi-même. Tu sauras en toi-même que Dieu est capable de faire ça. Maintenant, Tu ne reviendras pas forcément avec la force que Pierre avait eue ce jour-là, mais avec le peu de foi que tu as, le grain de sénévé, tu pourras dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas la grande foi qu'il faut, mais je crois que tu peux, amener mon cœur à aimer tous les gens qui m'ont fait le coup bas. Je crois que tu peux m'amener à vaincre le concubinage, à vaincre l'impudicité, à vaincre l'alcool, à vaincre les mauvaises pensées, à vaincre le mensonge, à vaincre la honte. Je crois, Seigneur, qu'avec toi, nous verrons des paralytiques se lever. Nous verrons des aveugles voir, recouvrer la vue. Je nous appelle à un travail personnel. Le minimum de foi qui te reste, reviens avec. Maintenant, dis dans la prière, parle. Dis, Seigneur, je crois que la ville de Rouen sera changée. La ville d'Évreux sera changée. Je crois qu'il y aura des politiciens français qui vont se convertir. Alors, il faut faire ce travail de réveiller le lumignon qui s'éteignait, la flamme qui s'éteignait. Il faut la réveiller par la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Ce papa a dit, Seigneur, je crois. Il y a quelque chose de fondamental en moi qui croit. Personne ne peut me l'enlever. Mais cependant, ce cas-là me dépasse. Mais je me confie en toi. Amen. Avec le peu de foi qui te reste, dis, Seigneur, je crois que tu peux me mettre au-dessus. Vous savez, Dieu, par sa parole, il nous met au-dessus de tout ce qui est force des ténèbres et la terre et le monde et les choses de la terre. Il peut nous mettre au-dessus parce qu'il a mis l'épaule au-dessus de tout ça. Paul a vécu sans se marier. Il était au-dessus de tout ça. Il peut nous mettre au-dessus. Tu dis, Seigneur, je crois que tu peux me mettre au-dessus. Car dans Éphésiens 3, et dans Éphésiens chapitre 1er, on nous montre que tu nous as mis au-dessus, tu nous as mis en toi. On nous dit que nous sommes cachés en Christ, cachés en Dieu. Donc il nous a transportés dans les lieux célestes, c'est ce que dit Éphésiens chapitre 1er. Il nous a transportés au-dessus. Tu dis, Seigneur, je le crois. Tout simplement, il faut le dire, confesser. Je crois que ce qui est écrit va s'accomplir. Je crois que je verrai les miracles qui sont dits. Je cherche ta face et je le crois. Et je veux prier dans ce sens. À partir d'aujourd'hui, je veux passer mon temps à confesser tout ce que Dieu a dit dans sa parole, dans la prière, à lutter avec ça dans la prière et à m'arrêter lorsque Dieu m'a apaisé. Je m'arrête. Tant qu'il ne m'a pas apaisé, je prie. De voir ce qu'il a dit dans Jean 4. Déjà la moisson blanchit. Déjà il y a la moisson qui est là. Seigneur, je veux vivre ce que tu as dit dans Jean 4. Dans Jean 4, tu as dit que la moisson est déjà là. Où est-ce qu'elle est? Mais je ne crois pas qu'elle est là. Ce n'est pas parce que nous souffrons à convertir les gens que Dieu ment. Il ne ment jamais. Il y a un temps où nous verrons ce qu'il dit. Mais nous devons le dire. Nous devons le croire et le dire. Il ne suffit pas de le croire au fond. Il faut le pratiquer dans la prière et le dire. Il faut confesser cela. Après un examen personnel, au fond de nous-mêmes, on se dit Dieu existe. Tout ce que je vois, tout le passé veut écraser le peu de foi qui me reste. Mais je refuse. Bien-aimés, vous savez, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup. Parce qu'ils ont fini par conclure que Dieu, est-ce qu'il existe vraiment ? Tant de promesses non accomplies. Ils viennent dans l'église, mais ils ne croient plus. Et ils finissent par quoi ? Par l'œcuménisme. Ils finissent par quoi ? Par mélanger la chair et Dieu. Parce qu'ils ne croient pas, ils ne croient plus vraiment. Vous savez, quand nous on dit qu'on doit tout faire gratuitement, il y a des gens qui trouvent qu'on exagère, on n'est pas réaliste. Or, c'est nous qui sommes réalistes. Dieu n'est-il pas tout puissant ? C'est nous qui sommes réalistes. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. C'est nous qui sommes réalistes. Au fait, nous faisons partie des gens qui avons dit non. On ne laisse pas là le lumignon s'éteindre. On ne laisse pas la petite flamme s'éteindre. Le petit lumignon qu'on a encore, la petite flamme qu'on a encore, on l'a utilisé pour confesser la parole. Ah, mais non, c'est que Dieu dit, c'est vrai. Il y a des gens qui ont laissé cela s'éteindre. Ah, je crois que c'est selon le contexte. Du coup, on va faire payer les concerts, faire payer les séminaires, faire payer les CD de ceci, de cela. Mais bien aimé, quand Dieu nous envoie, il va pourvoir. Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Il a dit, nourrissez-les vous-même. Il n'a jamais dit, allez faire des quêtes. Non, nourrissez-les vous-même. Il n'a pas dit qu'on ne peut jamais faire ça. Le Saint-Esprit peut nous conduire à faire participer les autres, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est très important, bien aimé, de croire en tout ce qui est écrit. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a demandé de ne rien prendre. L'ouvrier mérite son salaire. Je veux m'occuper de vous. Bien sûr qu'il va utiliser les humains, mais ce n'est pas aux disciples d'aller demander aux humains, c'est Dieu qui allait utiliser les humains. Il est tout puissant, frères et sœurs. Ne laissons pas le lumignon s'éteindre. Ne laissons pas la petite flamme qui est encore là. Cette flamme qui est environnée de grosses ténèbres, de tant d'échecs d'années, de tant de compromissions dans l'église visible, tant de bricolage dans l'église visible. Et par on se dit, mais on va s'en sortir comment ? On va s'en sortir. Dieu est tout puissant. C'est notre mot de base. Il est tout puissant. Il peut tout. Oh Seigneur, entends-nous, Seigneur. Nous te le disons clairement, que tu es tout-puissant, nous te le disons. Et sur base de cela, nous te confions le reste, Seigneur. Nous allons lire Daniel 3, 15 à 18. Daniel 3, 15 à 18. Le papa a dit, je ne cède pas. Jésus lui dit, oh, monsieur, tu me dis si tu peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Il a regardé en lui-même, il a dit, mais je n'ai pas la foi que demande ce Seigneur-là. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui refuse que je fasse marche arrière. Donc j'ai quand même la foi. Il dit, je crois. Parce que il y a un truc en moi qui m'empêche de ne pas croire. Amen. C'est le lumignon. C'est-à-dire que quand tu es dépassé par toute la puissance du péché qui t'entoure, la puissance de la méchanceté, du mauvais qui nous entoure, il y a quelque chose qui te dit, mais capitule seulement, arrête avec Dieu, ce n'est pas possible. Mais en même temps, il y a quelque chose qui refuse ça. C'est ça le reste. Le lumignon qui fume encore. C'est ça qu'il faut utiliser. Dire non. Le papa a dit, quand il a regardé, il a dit, mais oui, mais... J'ai du mal à croire. Mais ne pas croire aussi, je n'y arrive pas non plus. Donc je crois. Mais je ne crois pas au niveau de cette affaire. Mais je crois que Jésus, tu es tout puissant. Aide-moi pour tout. Voilà, en quelque sorte, il a dit, mais aide-moi pour tout. Et pour ma foi, et pour tout. Aide-moi. Voilà. On dit au Seigneur, suis dépassé. Mais arrêtez de croire en toi. C'est pas non plus possible. Alors, aide-moi pour tout. Je crois que tu peux tout. Voilà. Tu oublies un peu l'affaire qui te vole la foi. Oublie l'affaire qui aspire ta foi. Regarde à Dieu. Et Seigneur, en moi, il y a une impossibilité à ne plus croire en toi. Je ne veux pas non plus rester qu'un lumignon. Je veux que la flamme revienne. Alors Seigneur, aide-moi pour tout. C'est ce qu'a dit le papa. Jésus a dit, amenez l'enfant, allez. Il a guéri l'enfant. Amen. Il a dit, le type a compris. Il n'a pas laissé. Jésus n'est pas venu nous écraser. Dire, oh, t'as pas de foi, t'as pas de foi, t'as pas de foi. Il n'est pas venu écraser le lumignon qui fume encore. Il est venu réveiller ça. C'est le faux pasteur qui écrase ça. Dès que quelque chose que tu as demandé n'est pas arrivé, ah ben oui, mais c'est parce que vous n'avez pas la foi. Ils viennent écraser les gens. Jésus n'est pas comme ça. Jésus dit, avec la petite foi que tu as, tu peux déplacer une montagne. Commence par dire. Utilise la petite foi que tu as pour dire la parole de Dieu. Et les choses vont monter toutes seules jusqu'à ce que tu verras la montagne se déplacer. Daniel chapitre 3. 15 à 18. Maintenant, tenez-vous prêts. Hein? C'est les amis de Daniel. On leur dit de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils refusent. Alors, que leur dit Nebuchadnezzar? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voilà, toute la pression. Ces trois amis se retrouvent devant tout un royaume contre eux. Vous vous rendez compte, vous êtes trois? Tout un royaume, tout le gouvernement du royaume, tout un royaume contre vous, vous êtes arrêtés, ligotés, et on vous dit, mais vous vous prosternez devant la statue. Si vous refusez, on vous jette dans le feu. Et le monsieur leur dit clairement, qui vous délivrera, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et quel est le Dieu? Donc, il provoque le Dieu de Shadrach, Meshach, d'Abednego. C'est ce que les situations que nous vivons font. Elles provoquent notre Dieu. C'est-à-dire, à un moment, tu sens que tu as un choix à faire. Ne plus croire ou croire. C'est ce que ont vécu ces gens-là. Cette situation-là les a amenés devant un choix. Où vous croyez? Ou vous ne croyez pas. Ils ont provoqué les dieux vivants. Et Dieu ne perd jamais de combat. S'il nous a sauvés, il nous tient dans sa main. Il va laisser faire comme il a laissé faire pour Job. Il a dit à Satan, fais tout ce que tu vas faire. Mais tu ne peux pas arracher la foi de mon enfant. Tu ne peux pas. Donc arriver à ce niveau-là, où on doit tout laisser tomber. C'est là que le vrai enfant de Dieu dit non. Dieu existe. Non. Je peux tout perdre, mais Dieu existe. Il ne dit pas que forcément tout va bien marcher. Il dit même Dieu existe. C'est ce que vont dire nos amis. Ils vont dire ceci. Ils disent, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego
répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On n'a pas de polémique à faire. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. C'est des gens qui ont dit, nous n'en arriverons pas jusqu'à nier notre Dieu en adorant un autre Dieu. On ne va pas le faire. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Vous voyez la nuance. Il peut nous délivrer. Il peut. Il a la capacité de nous délivrer de la fournaise ardente. Et de l'autre côté, ils disent, là maintenant c'est la certitude, il nous délivrera de ta main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la fournaise, il peut ou ne pas nous délivrer, mais ce qui est sûr, tu ne vas jamais nous contrôler, c'est Dieu qui nous contrôle. C'est la foi racine. C'est-à-dire que les situations peuvent être ce qu'elles sont. On ne comprend pas tout, mais Dieu est au contrôle. Je crois en Dieu malgré tout. Il existe et à partir de cela, je me relance. Au fait, Satan ne sert qu'à nous faire prendre conscience qu'on s'est trop calmé. Et maintenant, au moment où il veut éteindre la foi, la petite qui restait, on se réveille. Vous savez, c'est comme au moment où tu sens que le souffle veut partir. Tu dis non. Psaume 118, verset 17, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Il y a un truc en toi qui refuse, qui dit non, Dieu existe. Ils ont dit non. Il peut nous délivrer de la fournaise. Ça dépend de lui, mais il a la capacité. Ça, c'est la foi racine. Ce n'est pas la foi dont puissance qui vient directement, qui te dit, oh, ça ne va rien nous faire. Non, ils ne savent pas. Par rapport à la fournaise elle-même, ils ne savent pas trop. Ce qu'ils savent, c'est que Dieu est tout puissant. Ça, c'est la foi racine. Mais la foi dont ça serait, c'est ce moment-là, on te donne tout en même temps et l'information que ça ne va rien vous faire. Et puis tu le dis clairement, ça ne va rien nous faire. Allez, envoyez-nous là-bas, voilà. Mais ils n'avaient pas ça. Ils avaient la foi racine qui leur disait, Dieu est plus grand que tout le monde. Dieu est plus fort que tout le monde. Dieu peut tout. Il peut nous délivrer. Et de la fournaise. Et il nous délivrera de ta main. C'est-à-dire que comme Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ils ne peuvent rien faire à l'âme. Donc, notre âme ne sera jamais en possession du diable. Parce que c'est le Seigneur qui tient ça. Notre corps peut être frappé parce que Dieu l'a permis. Même le Seigneur a été crucifié. Mais, notre âme, Jésus a dit, Seigneur, je te rends mon esprit. Il dit, il nous délivrera de ta main, donc tu ne nous contrôleras pas. On est libre par rapport à toi. C'est pourquoi on ne se prosterne même pas. Verset 18. Sinon, sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc dans tous les cas, hein, même s'il ne nous délivre pas, nous savons qu'il existe, il est le seul Dieu, c'est lui seul qu'on va servir. Et vous savez, quand ils ont été sauvés de la fournaise, Nebuchadnezzar s'est converti. Et dans sa conversion, lui-même, il explique sa conversion. Il dit que leur Dieu est le plus grand, mais j'ai été touché par leur foi en leur Dieu. C'est ça qui touche les gens. Ce n'est pas le miracle qui a impressionné Nebuchadnezzar. C'est la certitude de ces gens-là que Dieu pouvait faire tout. Alors qu'ils avaient, en apparence, tout contre eux, mais ils ont cru quand même en Dieu. C'est la foi racine. Et comment ils l'ont exprimé? En parlant. Il ne s'agit pas d'être là seulement, bon. Hé,
Bon, non. Tu dis ce que tu penses. Au fond de toi, Dieu existe et il s'occupera de tout. Bien-aimé, aucune situation ne dépasse le Seigneur. Retenons cela. Nous clôturons avec Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans d'autres versions, c'est écrit, le chef et l'auteur de la foi qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alors nous devons, il y a une carrière, il y a toutes les promesses du Seigneur, c'est une autre carrière, c'est notre projet. Il y a plein de projets. Mettons Dieu au centre. Quels sont les projets de Dieu pour nous? Il y en a plein. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Aime ton prochain comme toi-même. Commence par faire fonctionner les projets du Seigneur. Il est écrit. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mettons en œuvre tous les projets que la parole constitue. Mettons en œuvre tout ça. Aimez Dieu de tout son cœur. Sauvez la Normandie, sauvez la France, sauvez le monde. Plein de projets. Guérir les malades, tous ces projets-là du Seigneur, c'est le moment. Et les projets particuliers que Dieu nous met à cœur. Maintenant, on doit le dire. Ça va s'accomplir. En parler avec le Seigneur. Je crois que tu peux tout. Je crois que tu peux. Voilà. Maintenant, fonctionnons. Nous allons voir, bien-aimés, combien les ténèbres vont s'éloigner de nous. Combien chaque projet va s'accomplir un à un. On a négligé de dire, de confesser dans la prière, d'en parler clairement et d'avancer avec même la petite foi, mais on avance avec ça. On ne voit pas les choses. On n'a pas une puissance comme Pierre avait ce jour-là, comme nous aussi nous pouvons avoir certains moments. On n'a pas toujours cette puissance-là, mais la racine, là, on l'a et on confesse, on avance avec ça. Pour chaque chose, on construit l'œuvre de Dieu. On achète les haut-parleurs comme ça, on bâtit les choses de Dieu comme ça. Allez, on organise des temps d'évangélisation comme ça. Toujours avec la puissance de Dieu, la parole de Dieu. On bâtit chaque projet. On en parle. On ne se laisse pas impressionner par ce qu'on voit. On dit les choses. Dieu agira. Dieu va faire. Joseph, avant de mourir, il a dit, Dieu vous visitera et il vous sortira d'Égypte. Il l'a dit. Ça ne s'est pas arrêté dans le cœur. Il l'a dit. Il faut le dire que c'est vrai, je le crois. Je refuse les exercices spirituels parce que nous sommes sauvés par grâce. C'est le fonctionnement de Dieu. C'est tout. Il faut le dire. Je le crois. Notre Dieu nous délivrera de ta main. C'est comme ça. Même si tu te demandes, mais comment ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. On sait que personne ne peut nous prendre de la main du Seigneur. Personne. Dieu résoudra ce problème. Mais tu ne vois pas comment. Un problème immense, ce n'est pas ton problème. Dieu est au-dessus de tout. C'est ce que toi tu sais dans la racine, que Dieu est au-dessus de tout. Et il a promis de te mettre toi aussi au-dessus de tout. Amen.